Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de pouvoir vous retrouver et de vous voir aussi nombreux aussi dans cette salle. Nous voilà déjà au mois de juin, vers le milieu de l'année 2021. Et dans le parcours biblique que nous poursuivons depuis le début de l'année, nous sommes aussi à peu près à la moitié de la Bible. Et depuis quelques semaines, dans les groupes de maison, nous étudions des psaumes écrits par David, le roi, que Dieu a choisi pour diriger son peuple. Après le psaume 2, le psaume 16, nous nous arrêtons cet après-midi sur le psaume 22. Comme le disait un commentateur, les chrétiens peuvent difficilement lire ce psaume sans penser à Jésus. Sans penser à Jésus dans ses derniers moments sur la croix. Pourtant, il nous faudra comprendre comment nous passons de l'expérience de David, qui a écrit ce psaume, à l'expérience de Jésus, qui reprend certaines paroles et surtout qui a vécu jusque dans son corps ce qui est décrit ici. Comme dans d'autres psaumes du recueil, nous passons d'une situation de détresse à une expérience plus lumineuse qui culmine avec la louange adressée à Dieu. Oui, quelque chose s'est passé et a déclenché ce changement de tonalité que vous avez sans doute perçu. Au début, le psalmiste est dans la supplication. Et à la fin, il loue son libérateur. Et le psaume 22 se termine sur une vision grandiose. Le Dieu qui règne est adoré par des gens issus de toutes les nations. Et à plusieurs endroits de ce texte, c'est vrai, nous nous identifions à l'expérience de David en tant que croyant en situation de détresse. En tant que croyant qui crie à Dieu. Oui, nous trouvons une certaine identification dans l'expérience de David. Mais heureusement pour nous, ce psaume parle aussi de délivrance. Mes amis, louons Dieu. Louons Dieu car il délivre celui qui est dans la détresse. C'est notre certitude. Louons Dieu car il délivre celui qui est dans la détresse. Et je vous propose de suivre le mouvement de ce texte en évoquant trois types d'expériences. La première, des versets 2 à 12, une expérience déconcertante. Une expérience déconcertante. Quelle est donc cette expérience en question ? À quoi le psalmiste est-il confronté ici ? Eh bien, regardez les versets 2 et 3. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir ? Sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas ? La nuit, et je ne trouve pas de repos. Dans la détresse, où est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi m'a-t-il abandonné ? Ces questions provoquent une certaine angoisse quand on y pense. D'un coup, le croyant qu'est David fait face à ce qu'il interprète comme un silence de la part de Dieu, et même un abandon. Il se sent abandonné par Dieu. Avez-vous déjà été confronté à ce genre d'expérience ? Avez-vous déjà eu cette impression d'être abandonné par Dieu ? Ce sentiment que Dieu n'est plus là, qu'il ne répond pas. Et c'est vrai, quoi de plus déconcertant pour le croyant qui se trouve en situation de détresse que ce sentiment d'être abandonné par Dieu ? Quoi de plus déconcertant ? Et cette expérience que David évoque est d'autant plus incompréhensible que l'histoire d'Israël semble témoigner le contraire. Les versets 5 et 6, « C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. » La leçon que David tire du passé de son peuple, c'est que quand il criait à Dieu, quand il lui faisait confiance, Dieu intervenait. Dieu délivrait son peuple. Et tant de fois, nous lisons dans l'histoire d'Israël, que dans sa grâce et dans son amour, l'Éternel est venu au secours de son peuple qui criait à lui. Et maintenant, dans sa propre situation, David ne comprend pas. Il voit ce qui s'est passé dans l'histoire de son peuple, mais en ce qui le concerne, il ne se passe rien. Il ne comprend pas pourquoi Dieu ne lui répond pas alors qu'il lui crie jour et nuit. Et c'est une expérience qui peut aussi nous désorienter quand nous voyons que la réponse de Dieu tarde à venir. Et plus la situation est pressante, plus la situation est difficile à vivre, plus c'est une souffrance d'attendre, n'est-ce pas ? Même si nous ne connaissons pas ici les circonstances exactes que David a vécues, nous voyons par cette description qu'il se sent comme un moins que rien, un ver, pour désigner ce qu'il y a de plus insignifiant, verset 7. Un ver qu'on méprise, un ver dont on se moque cruellement. Imaginez ces moqueries alors que David est en train de souffrir. Hé, toi qui fais confiance à Dieu, on va bien voir s'il vient te sauver. Vas-y, prie, sans doute qu'il interviendra. Et assurément, David, fait preuve de foi ici. Il continue malgré tout de s'adresser à son Dieu. Et dans les versets 10 et 11, le psalmiste reconnaît que Dieu a pris soin de lui avant même sa naissance. Et nous avons cette expression étonnante au verset 11. « Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alors très certainement que dans le ventre de sa mère, David n'avait pas conscience de cela. Mais cette parole montre qu'il reconnaît après coup que Dieu était là depuis le début de sa vie, dès sa conception. Ce Dieu qu'il adore et qu'il prie à ce moment-là a veillé sur lui depuis le début. D'où cette supplication au verset 12. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ne t'éloigne pas de moi. » Dieu est son seul recours. Dieu est son seul secours. David exprime en ces mots son besoin de Dieu, du Dieu qui n'a pas cessé de veiller sur lui. Et David n'est pas le seul à avoir fait cette expérience. Parmi ses descendants, un seul a vécu cette détresse comme jamais nous ne pourrions l'expérimenter. Les auteurs des évangiles nous rapportent cette scène où sous un ciel obscur, sur la croix, Jésus crie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, le Fils de Dieu, s'adresse à son Père en reprenant les paroles du psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tant qu'homme juste, sans péché, jamais il n'aurait dû expérimenter, ne serait-ce que le sentiment d'être abandonné par Dieu. Jamais il n'aurait dû. Mais c'est en homme qui porte nos péchés qu'il expérimente cette détresse. Le jugement de Dieu s'abat sur cet homme, sur son Fils, Jésus, au lieu de tomber sur nous. Et avant ce cri déchirant, Jésus a littéralement vécu les moqueries que nous avons évoquées. Et j'aimerais reprendre le passage de Matthieu, chapitre 27, les versets 41 à 44. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Et puis cette citation du psaume 22, « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. Selon certains commentateurs, quand David a composé ce psaume, il a évoqué sa situation. Et en même temps, en qualité de prophète, il annonçait aussi ce qui devait littéralement arriver à son descendant. Oui, Jésus a véritablement vécu ce que nous venons de lire. Lui, le juste, le Seigneur, lui, Dieu, le Fils, a accepté de s'abaisser à ce point, de porter nos péchés, d'être traité en coupable à notre place, de subir ses moqueries, tout en continuant de se confier en Dieu son Père. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissons à ce que ce psaume veut dire pour nous. Dans notre expérience d'hommes et de femmes pécheurs, nous passerons peut-être par des doutes jusqu'au sentiment d'être abandonnés par Dieu, alors que nous croyons en lui. Je pense que nous ne sommes pas à l'abri de tels doutes. Cela peut arriver. Et en même temps, il faut bien avouer que rien dans notre expérience n'est comparable à ce que Jésus-Christ a vécu lors de ses derniers moments avant de mourir. Rien n'est comparable. Notre pire détresse n'égale pas la sienne. Jésus a été condamné à notre place. Nous avons eu l'occasion de le chanter tout à l'heure. Jésus a été condamné à notre place pour que nous n'ayons plus à expérimenter l'abandon de Dieu au degré où il a vécu. Nous pouvons vivre une expérience déconcertante quand, dans nos plus grandes difficultés, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas. Mais est-ce le signe de son abandon ? Non. Si nous sommes en Christ, si nous sommes enfants de Dieu, une autre réalité prédomine sur nos impressions. Et l'apôtre Paul pose cette question aux chrétiens de Rome, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 35, 38 à 39. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? Et notez ce qu'il propose comme réponse. La détresse ou l'angoisse ? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Et puis un peu plus loin, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. C'est avec cette vérité qu'il nous faut traverser les épreuves de la vie. Remercions Dieu qui a décidé, dans sa grâce, de ne pas nous abandonner. Remercions Jésus qui a payé à notre place et qui a manifesté ainsi tellement d'amour pour nous. Alors, en sachant cela, que faire avec ces moments où nous avons tellement besoin que Dieu nous réponde et qu'il ne semble ne pas le faire ? Que faire de ces moments-là ? Eh bien, que le Seigneur nous donne la foi nécessaire pour continuer à nous attendre à lui. Parce que nous savons, avec certitude, sur la base de ce que Dieu dit dans sa parole, qu'il ne nous a pas abandonnés dans notre détresse, puisque rien ne peut nous arracher à son amour. Rien. Nous venons de voir que l'expérience du silence, entre guillemets, de Dieu est une expérience déconcertante pour le croyant. Mais la suite du psaume ne décrit pas une situation plus rassurante. Au contraire, le psalmiste vit une expérience menaçante. Les versets 13 à 22. Une expérience menaçante. À partir du verset 13, la situation semble vraiment critique. Quand nous lisons les récits sur la vie de David dans les livres de 1 et de 2 Samuel, nous nous rendons compte que les choses n'ont pas toujours été simples pour lui. Plus d'une fois, David a dû fuir, fuir devant ses ennemis, fuir devant ceux qui en voulaient à sa vie, fuir devant ceux qui le pourchassaient jusqu'à son propre fils. Je ne crois pas que ce soit une situation courante parmi nous. Et sans doute que les chrétiens persécutés dans le monde peuvent d'autant mieux s'identifier à ce que David décrit ici. Peut-être que nous, un peu moins. Tantôt, le psalmiste compare ses ennemis à des animaux féroces. Verset 13, taureau. Verset 14, lion. Verset 17, chien. Avec ce sentiment d'être cerné, d'être la proie de ces bêtes. Et puis tantôt, il décrit les souffrances physiques qui l'accablent. Les versets 15 à 16 nous montrent qu'il n'en peut plus. Ses forces l'abandonnent. Pour lui, la mort n'est plus très loin. Il va jusqu'à dire, sans doute métaphoriquement, que ses mains et ses pieds sont percés. Verset 17. Et je dis métaphoriquement, parce qu'à notre connaissance, David n'a jamais été blessé à ce point, percé des mains et des pieds. Et selon certains, l'image qui est employée ici est celle de la chasse, lorsqu'un animal est traqué et que les chasseurs qui veulent l'achever le chargent de leur lance. Et puis David est donné en spectacle à des ennemis qui se contentent de le regarder, et bien plus, qui ne le comptent plus comme l'un des vivants. Et vous savez, dans mes recherches cette semaine, j'ai découvert la signification du verset 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. Cette pratique du partage des vêtements, ou du tirage au sort par rapport à un vêtement qui appartient à quelqu'un d'autre, exprime symboliquement que le propriétaire de ses habits est considéré comme mort, comme s'il ne faisait plus partie du monde des vivants. C'est une sorte de mise à mort symbolique. Quelle humiliation, quel mépris. Et malgré cette expérience menaçante et douloureuse, le psalmiste se tourne encore vers son Dieu. Dans la détresse, il demande à Dieu d'intervenir, de le secourir, de le sauver de ces hommes qui se comportent comme des animaux féroces. David prie et supplie, verset 20, « Ne t'éloigne pas, viens vite à mon secours. » Verset 21, « Protège mon âme, protège ma vie. » Et verset 22, « Sauve-moi. » David s'adresse à celui qu'il a déjà tant de fois secouru. Et encore une fois, face au danger, il s'adresse à Dieu. Et comme dans la première partie du psaume, nous retrouvons dans ces versets que je viens d'évoquer la description de ce que Jésus a enduré. Là où David emploie peut-être des métaphores pour décrire sa situation, Jésus l'a véritablement vécu. Et voici ce que nous retrouvons dans l'expérience de Jésus. Si vous comparez un petit peu les versets qui sont affichés et la situation de Jésus. Par rapport aux versets 13 et 14, le fait que Jésus soit entouré de ses ennemis qui se moquent de lui au pied de la croix. Par rapport aux versets 15 à 16, les forces qui manquent à Jésus alors qu'il souffre sur le bois. Et regardez le verset 16. Cette langue qui s'attache au palais, qu'est-ce que ça vous rappelle? La soif. Sur la croix, Jésus a eu soif. Verset 17, le fait que, littéralement, Jésus a été percé au niveau des mains et des pieds. Ce n'est pas une métaphore pour Jésus. Verset 18, le fait d'être regardé par les autres comme donné en spectacle. Et verset 19, bien sûr, le partage de ses vêtements, qui est d'ailleurs rapporté dans les quatre évangiles. Encore une fois, l'expérience de Jésus n'a pas son pareil. Sur la croix, Jésus a accepté ce sort qu'il ne méritait pas, à cause de nous, pécheurs. L'acharnement de ses ennemis l'a conduit jusqu'à la mort. Et c'est vrai, sur la croix, Jésus ne s'est pas empressé de crier à Dieu « Sauve-moi !» Mais il savait que la délivrance était proche. Et nous lisons d'ailleurs dans l'Épître aux Romains, aux Hébreux, pardon, Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3, concernant Jésus, « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. » En méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Si David a pu être soustrait de la mort, Jésus devait au contraire passer par là, car notre salut était en jeu. Et en ce qui nous concerne, nous avons peut-être rarement ou jamais fait l'expérience d'une situation où nous étions en danger de mort, menacés par des personnes qui en voulaient à notre vie. Peut-être que nous n'avons jamais fait cette expérience. Et si cela devait nous arriver, tout particulièrement si nous étions amenés à être persécutés à cause de notre foi en Christ, nous avons ici la manière dont nous devrions prier. Assurément, c'est Dieu que nous appellerions à l'aide, comme l'a fait David. Et de même, sur la croix, Jésus a continué à prier son Père, comme nous l'avons vu, à être en contact avec lui jusqu'à son dernier souffle. Peut-être serons-nous un jour persécutés à cause de notre foi, souffrant comme Christ a souffert, même si dans son cas, son sacrifice signifiait bien plus qu'une persécution de la part des hommes. Et à l'instant, j'ai lu un extrait de l'Épître aux Hébreux qui était destiné à des chrétiens qui connaissaient la persécution. Si la persécution devait arriver, ne nous laissons pas gagner par le découragement. Le peuple de Dieu a connu tout au long de l'histoire une opposition de la part d'hommes et de femmes qui voulaient détruire la foi chrétienne, et c'est toujours actuel. Mais nous savons qu'ils n'y sont pas parvenus, car Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur son Église. Et parfois même, sans être peut-être aussi extrême, nous sommes persécutés, méprisés parce que nous choisissons d'honorer Dieu en faisant ce qui est bien à ses yeux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être méprisé, persécuté parce que vous faisiez le bien ? Certes, bien souvent, notre vie n'est pas en danger, mais cela fait mal quand même de souffrir alors que nous n'avons rien fait de mal. Mais là aussi, Christ demeure notre exemple. Écoutons ce que l'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre. Alors, dans le contexte, il s'adresse aux serviteurs qui auraient un maître dur avec eux. 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 24. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Vous avez bien entendu, si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Que Dieu nous mette en mémoire de tels versets, pour que nous sachions supporter ce genre d'injustice à l'exemple de notre Seigneur Jésus. Que son esprit nous rende capables de ne pas rendre coup sur coup. Dieu rendra justice en son temps. Malgré l'expérience déconcertante, malgré l'expérience menaçante que vivait David, il n'a pas cessé de mettre sa confiance en l'Éternel, de l'appeler à l'aide, malgré l'absence de réponse immédiate. Et c'est alors que nous arrivons à un basculement dans le texte. Nous passons de la détresse à une expérience réjouissante. Des versets 22, la fin du verset 22 et au verset 32. Et justement, le verset 22, « Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. » Et puis, qu'est-ce que nous avons à la fin du verset 22 ? Tu m'as répondu. Je crois que vous lisez comme moi. Tu m'as répondu. Nous ne savons pas exactement de quelle manière David a reçu cette réponse de Dieu. Mais retenons qu'à présent, David fait l'expérience d'un Dieu qui répond à ses supplications, Bien sûr, il le savait sans doute par ses expériences. Mais là, de nouveau, il expérimente de nouveau cette expérience d'un Dieu qui répond à ses supplications, d'un Dieu qui intervient dans sa situation. Et à partir de ce verset, nous changeons de registre. Désormais, David a envie de louer Dieu et il interpelle son peuple à le rejoindre dans cette louange du Dieu vivant. Versets 23 à 24. David, maintenant, veut interpeller son peuple à pouvoir louer Dieu parce que Dieu a répondu. Dieu soit loué, entendons-nous parfois. Vous savez, c'est une expression qui est devenue populaire pour traduire un soulagement quand nous sortons d'une difficulté, quand nous arrivons à résoudre un problème ou quand une situation finalement se dénoue. Par exemple, pour l'enfant que nous avons perdu de vue dans un magasin, Dieu soit loué, nous l'avons retrouvé. Mais ne banalisons pas l'expression. Oui, que Dieu soit vraiment loué à chaque fois que nous faisons l'expérience de sa délivrance. Et alors, avec David, nous pouvons aussi affirmer au verset 25, « En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Que tu sois un chrétien, une chrétienne jeune dans la foi, ou plus avancée, tu as sans doute déjà expérimenté cette vérité. Dieu écoute quand nous crions à lui. Si ce n'était pas vrai, nous n'aurions aucune raison de continuer à prier Dieu dans notre détresse. Mais notre Dieu est véritablement à l'écoute. Parce que nous sommes unis avec Christ par la foi, Dieu nous écoute comme un père écoute ses enfants. Et sa réponse en est la preuve. Dieu a répondu parce qu'il a entendu. Alors oui, écoutons cet appel à la louange et cet appel à nous réjouir de son salut. Le verset 26 évoque l'accomplissement des vœux. Le psalmiste s'est engagé envers Dieu et à l'époque, cela s'accompagnait d'un repas. On consommait le sacrifice offert selon la loi du Lévitique. Lévitique chapitre 7, verset 16. « Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. » Et à ce repas, le peuple est convié. D'abord les malheureux, verset 27. D'abord les malheureux, ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui dépendent de l'Éternel, eh bien on dit d'eux qu'ils seront rassasiés. Et ils reçoivent cette bénédiction, que votre cœur vive à perpétuité. Et ils sont invités à se réjouir avec le psalmiste, en célébrant Dieu. Et cette adoration de Dieu ne s'arrête pas à Israël, mais cette adoration s'étend à tous les peuples de la terre. David a à présent en vue le monde entier. Dieu n'est pas que le Dieu d'un petit peuple tel qu'Israël. Mais au verset 29, nous lisons que c'est lui qui domine sur les nations. C'est lui le créateur de tous les hommes. C'est donc à lui que revient l'adoration. Et tout ce que David décrit par la suite dépasse la perspective de son époque. Les grands de ce monde, comme ceux dont la vie décline, adoreront Dieu, se prosterneront devant le roi de la terre. Et après eux, de génération en génération, Dieu sera connu par ceux qui le craignent. Et nous savons, parce que nous vivons après la croix, nous savons que tout cela a été rendu possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort à la croix et sa résurrection. À quoi correspond sa délivrance, si ce n'est à sa glorieuse résurrection, avec tout ce qui s'ensuit? Et de sa délivrance découle la nôtre. Dieu a ressuscité Jésus pour que nous soyons déclarés justes. Et dans cette dernière partie du psaume 22, il me semble que nous sommes davantage du côté des peuples qui viennent à Dieu que du côté de David, dont la vie préfigure annonce celle de Christ. Et c'est ainsi, par exemple, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prête à Jésus les mots du verset 23. Dans Hébreux chapitre 2, versets 11 à 12. De fait, celui qui procure la sainteté, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Nous avons ici une citation du verset 23 du psaume 22. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prête à Jésus ces paroles-là. Le Dieu éternel qui s'est fait chair, qui est devenu humain, est en tout point semblable à nous, à l'exception du péché. Et cela était nécessaire pour que son sacrifice soit valable pour des êtres humains. Et celles et ceux qu'il sauve ainsi sont ses frères, ses sœurs. Et cela ne concerne pas seulement les Israélites, mais bien des gens issus de toutes les nations dont nous faisons partie. En Jésus, ce qui est annoncé dans le psaume 22 est accompli. Et vous constatez que jusqu'à aujourd'hui, en 2021, nous continuons d'annoncer sa justice. Nous continuons d'annoncer à nos enfants et à nos jeunes, à la génération future, ce que Dieu a fait, son salut parfait. Oh, combien nous sommes reconnaissants pour la croix. La mort de Jésus n'a pas été inutile, puisque cela a permis que les peuples de la terre se tournent vers Dieu. Et avec le temps, les conséquences de la croix et de la résurrection de Jésus n'ont pas disparu. Et si tu entends cet appel cet après-midi, à te tourner vers Dieu et à reconnaître que c'est à lui qu'appartient le règne, porte ton regard sur Jésus, celui qui a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il était en train de porter tes péchés. Pour que toi, tu ne sois pas abandonné. Et que tu vives une vie nouvelle avec lui. Arrivé au bout de ce psaume 22, ouvrons nos cœurs à la louange. Louons Dieu en particulier, car il délivre celui qui est dans la détresse. Que ce soit notre cas en ce moment ou la situation des autres. Et je crois que dans l'Église, nous devons apprendre d'autant plus à nous réjouir et à louer Dieu ensemble quand un frère ou une sœur connaît des victoires, connaît des délivrances. Mais par-dessus tout, nous avons vu tout au long de ce message que ce psaume décrit plus que la situation de David. Il évoque par avance les souffrances de notre Sauveur Jésus et sa délivrance de la mort au moment de sa résurrection. Et c'est Jésus aussi qui appelle ses frères et sœurs à louer Dieu, à louer celui qui écoute quand on crie à lui. Retenons cela, il écoute quand on crie à lui. Oui, que Dieu soit l'objet de nos louanges tout au long de cette semaine qui vient, et plus largement tout au long de notre vie, sans oublier de l'annoncer à la génération suivante, qui pourra ainsi l'annoncer à la génération d'après, de telle sorte que l'adoration de Dieu n'ait pas de fin. À Dieu soit le règne, à Dieu soit la louange, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons encore nous laisser interpeller par ta parole. Seigneur, là où nous avons besoin de changer, là où nous avons besoin de te faire plus confiance, là où nous devons persévérer parce que nous sommes convaincus que tu ne nous abandonnes pas, aide-nous, Seigneur. Accorde-nous d'avoir la foi suffisante pour pouvoir traverser nos épreuves. Et peut-être que certains d'entre nous passent par là. Seigneur, tu connais la situation des uns et des autres. Mais en même temps, Seigneur, nous voyons bien que ce psaume nous décrit aussi les souffrances qu'a endurées notre Seigneur Jésus. Et combien son expérience est inégalable, incomparable par rapport à ce que nous pouvons souffrir. Et nous voulons tellement te rendre grâce, Seigneur, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te remercions, Seigneur, parce que, oui, désormais, grâce à lui, grâce à Christ, oui, tout est accompli et nous avons cette relation privilégiée avec toi. Toi, notre Père, toi que nous pouvons appeler Abba Père, ce qui nous donne l'assurance que tu nous entends comme étant tes enfants. Merci d'être à notre écoute alors que nous sommes tellement mauvais encore, tellement pécheurs. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu accèdes encore à nos prières. Tu réponds à nos prières. Et pour cela, nous te louons. Et nous prions, Seigneur, effectivement, que ta louange, ton adoration puisse se poursuivre de génération en génération, au-delà de notre propre génération, Seigneur. Parce que tu en es digne, tu es digne de cette gloire. Et nous voulons, oui, tout simplement, Seigneur, encore nous incliner devant toi et reconnaître que, oui, tu es le Dieu glorieux que nous voulons continuer à adorer dans notre vie et que tu encourages les uns les autres à vivre authentiquement près de toi. Merci Seigneur encore pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour toutes tes délivrances dans chacune de nos vies. Merci surtout de nous avoir délivrés du péché et de la mort. Et c'est en Christ que nous te prions. Amen.